Gloire à Dieu. Et encore bonjour à tous. Comment ça va? Vous avez tous passé des belles semaines, une belle semaine? Gloire à Dieu. Alléluia. Merci d'avoir prié pour le 28 septembre, qui est une conférence très importante. Pour la première fois, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier tous les jours une heure pour cette conférence, de mon côté. Ça veut dire que Dieu a prévu quelque chose de spécial pour cette conférence. Amen. De votre côté, votre responsabilité consiste à inviter des gens afin qu'ils entendent l'évangile. Amen. Et de prier pour eux. Parce que vous êtes le point de contact de ces gens pour le ciel. Ou le point de contact pour ces gens avec le ciel plutôt. Vous êtes la raison pour laquelle Dieu vous a laissé sur terre. Ou plutôt, ces gens sont la raison pour laquelle Dieu vous a laissé sur terre. Amen. Parce que vous êtes sur terre pour les gagner. Vous êtes sur terre pour les amener à Christ. Dieu veut votre réussite. Et votre réussite ultime sera dans la vie éternelle, n'est-ce pas, au ciel et ensuite de nouveau sur terre. Et donc, si Dieu vous a appelé à rester sur terre au jour de votre salut, c'est pour vivre dans cette victoire. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts pour la parole? Gloire à Dieu. On va en parler justement. Vous savez, Dieu nous appelle constamment à grandir d'une dimension à une autre. Amen. Constamment. Vous avez vos Bibles? Sur le téléphone? Sortez vos Bibles. Je vois, messieurs, que vous vous êtes habillés comme des chefs. Je trouve ça excellent. Bravo. Et pour une fois, c'est moi qui ai habillé en training, en t-shirt. Vous imaginez un peu? Vous savez qu'une fois, Pasteur Chris était venu habillé en training. Il est venu exprès habillé en training et en sweatshirt, pour montrer que la puissance de Dieu coule malgré tout. C'est assez drôle. Il est arrivé comme ça, en tenue Nike, je pense que c'était Nike, et il a fait cette section. Take it! Et la section entière est tombée sous la puissance de Dieu. D'un coup, il a dit, vous voyez, c'est pas votre costard qui fait de vous un pasteur, c'est votre vie de prière. C'est beau, hein? Ok. L'enfant de Dieu, donc on va commencer le message maintenant, prenez note s'il vous plaît. L'enfant de Dieu est connu par les anges, par Dieu, par les esprits, mauvais ou bons, par son entourage, par le monde spirituel, par l'Église, sur trois points. L'enfant de Dieu est victorieux sur trois points, d'accord ? Il y a trois choses que quand on vous voit, quand les anges vous voient et quand les démons vous voient, doivent dire cette personne est connue pour ces trois points. Voici quels sont ces trois points. Notez-les s'il vous plaît. Vous devez être connu comme étant une personne proche de la parole. Prenez note. Une personne proche de la parole. Une personne qui est proche des Écritures, qui comprend le concept des Écritures, qui lit les Écritures, qui laisse les Écritures former une image en elle, qui laisse les Écritures peindre qui elle est. Ça, c'est la première chose. Vous devez être connu comme une personne qui est proche des Écritures. Vous devez être dans les Écritures. Vous devez être absolument vendu aux Écritures, c'est-à-dire que les Écritures peignent qui vous êtes. Elle peine cette image de victoire, cette image de puissance et de prospérité. Amen. Numéro 2. Vous devez être connu comme étant une personne qui prie. Vous devez être une personne qui prie. Amen. Dites, je suis une personne qui prie. C'est-à-dire que quand vous rentrez dans une pièce, les anges qui sont dans la pièce, l'Esprit de Dieu qui est dans la pièce, les gens, possiblement, si vous les connaissez, qui sont dans la pièce, les démons qui sont dans la pièce, doivent tout de suite savoir et doivent vous connaître comme étant une personne qui prie. La Bible dit que les démons savaient qui était Paul, vous saviez ça? À un moment, c'est dans Acte 13, ou peut-être Acte 19, excusez-moi. L'apôtre Paul vient dans une ville et commence à faire des miracles partout. Et là, il y avait des exorcistes ambulants, donc des gars qui faisaient de l'exorcisme, qui vont vers un homme possédé et dit « Dans le nom de Jésus que Paul prêche, sors de cet homme. » Et là, l'esprit répond et dit « Jésus, je le connais. Paul, je sais qui c'est. Donc vous pouvez être connu par les anges. Vous savez, quand vous priez, la Bible dit que le parler en langue, c'est le langage des anges. Hein. Quand vous priez, les anges sont libérés pour œuvrer en votre faveur. Amen. Donc ça veut dire que les anges savent si vous êtes des gens qui prient. Amen. Dites, je suis une personne qui prie. Gloire à Dieu. Et troisièmement, vous devez être connu comme étant attaché à l'Église de Christ. Soyez attaché à l'Église de Christ. Bien sûr, l'organisation, on va dire, les cultes et tout ça. Soyez aussi une personne qui défendait l'Église. Même si vos frères et sœurs dans des ministères externes, nos frères et sœurs dans des ministères externes, sont loin d'une connaissance absolue, ça reste nos frères et sœurs. Et on doit les défendre. Vous comprenez ? J'étais ici. Alors, on doit les défendre. Attention, on doit les défendre dans leur identité, pas forcément leur doctrine. Si leur doctrine est fausse, n'encouragez pas cette doctrine, d'accord ? J'étais justement, c'est pour ça que j'étais à l'étranger, avec un ministre de l'Évangile, et j'ai envoyé à ma maman une photo de ce qui se passait dans la salle. Bon, la plupart d'entre vous, vous êtes nés de nouveau dans ce ministère, mais vous savez qu'il y a tout un mouvement qu'on appelle le mouvement évangélique, ça vous dit quelque chose, hein ? Ok. Alors, ce mouvement évangélique, il faut bien comprendre quelque chose. C'est que il n'est pas cadré comme notre ministère. Par exemple, moi, si je commençais à faire quelque chose qui est en dehors des lignées du ministère, mon pasteur m'appellerait et dirait « Joachim, il faut corriger ça. On ne peut pas faire ça comme ça. » C'est normal, n'est-ce pas ? La discipline. Ok. Et dans ces mouvements-là, c'est un peu une église ici, puis ils se connaissent, mais ils ne sont pas forcément centralisés et cadrés. Et à cause de ça, il y a des dérives beaucoup, 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 sous prétexte qu'ils sont proches du Saint-Esprit. Donc ils disent « Je suis proche du Saint-Esprit, donc ce que je ressens, je le fais. » Vous voyez un peu l'idée ? Et donc hier, j'ai envoyé, c'était hier maman, n'est-ce pas ? J'ai envoyé, ou avant-hier, j'ai envoyé une photo à ma maman de ce qui se passait dans la salle. Il y avait des dames qui dansaient avec des drapeaux, qui faisaient des danses bizarres d'ailleurs. Et vous voyez, c'est quelque chose qu'on doit vraiment rendre gloire à Dieu pour Pasteur Chris qui nous a emmenés vraiment très haut dans la compréhension de la parole de Dieu. Vous voyez ? Pour ceux qui sont déjà allés dans des églises externes, et c'est bien sûr pas interdit, hein, si vous voulez, vous pouvez, vous allez voir vite qu'on a quand même un niveau et un exceptionnalisme ici qui est puissant. Amen. Mais vous, vous devez être connu pour une personne, comme une personne proche de la parole. Dites, je suis proche de la parole. Donc, la parole construit cette image. Vous savez, j'étais justement à Varsovie et le ministère avec lequel je voyageais est très généreux, donc ils nous ont mis à l'hôtel Bristol, qui est un excellent hôtel. Tout le monde connaît le nom Bristol d'ailleurs. Et j'étais au dernier étage de l'hôtel, avec la vue sur le palais présidentiel. J'ai jamais vu ça de ma vie. Écoutez bien ça, parce que j'aimerais vous parler de ce que la parole de Dieu vous peint. Donc, j'étais comme ça, et je regardais un peu la vue, je trouvais ça magnifique. J'étais là, ouh, qu'est-ce que c'est haut ? Oui, parce qu'on est vraiment très haut. Et là, je vois un pigeon qui vient et qui se pose. Vous savez, juste sur le rebord. Et je me suis dit quelque chose d'intéressant. Écoutez bien, hein. Moi, j'aime pas le vide, j'en ai pas peur, mais j'aime pas le vide, vous savez, où il n'y a pas de protection. C'est-à-dire que je peux être sur un immeuble de 100 étages, s'il y a une vitre, je m'en fiche, je vais même admirer. Par contre, s'il n'y a pas de vitre et puis qu'il se pourrait que quelqu'un, vous voyez, me fasse tomber, là, j'aime pas trop m'approcher. Et je me suis rendu compte que ce pigeon, il n'en avait rien à faire. Il était posé là, et il regardait, il était là, oh, génial. Et j'aurais pu le pousser, ça ne l'aurait même pas fait peur. Pourquoi ? Parce que dû à ses capacités, pour le coup naturelles, il n'a absolument pas la conscience ou la compréhension que quelqu'un peut mourir en tombant dans le vide. Pourquoi ? Parce que naturellement, il va voler. Vous voyez ? Si je le pousse, il va prendre son vol et il ne va pas tomber. On est d'accord ? Et je me suis rendu compte qu'il avait une image du monde qui était différente de la mienne par rapport à ce point très précis. Vous suivez jusqu'ici ? Quelle image avez-vous de vous ? Est-ce que cette image est en adéquation avec la réalité de la parole ? J'aimerais qu'on prenne quelque chose, parce que on doit voir ce que les Écritures ont à nous dire. Amen. Vous réjouissez du 28 septembre. Vous allez comprendre. Dans la version Darby, 1 Corinthiens 9, 16. Vous voyez, c'est quelque chose qui peint une image en nous, qui peint une image. Et quand on est confronté à ces réalités, des fois, ça nous secoue un petit peu. Quand j'ai vu ce pigeon, ça m'a un petit peu secoué, je vous le dis. J'étais vraiment surpris. Je me suis dit, waouh, vous vous rendez compte? Pour lui, il n'y a aucune conscience que le vide existe, que la chute existe. Ça n'existe pas dans sa tête de pigeon. Pourtant, un pigeon, c'est pas intelligent, mais alors lui, vous voyez? Pourtant, je vous garantis qu'un des garçons ici s'approche un peu trop du vide, la maman va immédiatement le prendre. Par contre, normal, on a la conscience de ça. Et bien sûr, c'est pas un manque de foi, gloire à Dieu, c'est être juste une bonne mère. Amen. Mais vous, en tant qu'enfant de Dieu, quelle conscience avez-vous de vous? Quelle conscience, quelle image? Est-ce que vous imaginez un pigeon qui aurait peur de s'approcher du vide? Ce serait déconnecté à la réalité, n'est-ce pas? La vraie réalité de vous en vous. Est-ce que vous êtes connecté à cette image? Regardez. Car si j'évangélise, je n'ai pas de quoi me glorifier, car c'est une nécessité qui m'est imposée. Car malheur à moi si je n'évangélise pas. Oh, vous avez vu ce qu'il a dit? Il a dit quoi? Malheur à moi si je n'évangélise pas. Est-ce que vous saviez qu'il y a un malheur pour les gens qui n'évangélisent pas? Ce que la Bible dit, hein? Malheur à moi. Alors, ce n'est pas un malheur qui vous enlève votre salut, non, non, non. C'est juste que vous allez passer à côté de la signification de votre vie. Beaucoup ont les yeux sur les choses de ce monde. Beaucoup. Même les enfants de Dieu. On a les yeux sur ce que ce monde peut nous donner. Et après, ils prennent, et ce n'est pas faux en soi, ils prennent la parole pour vivre dans l'abondance de ces choses. Il n'y a pas de mal à ça. Vous savez, j'ai rencontré une dame, justement à Varsovie, que je connaissais de nom, mais je ne l'avais jamais vraiment parlé avec elle. Une toute vieille dame, toute chou. Et elle est posée comme ça, elle est toute gentille, toute mignonne. Et on parlait de nos correspondances en avion. Et une des personnes de l'équipe lui dit: Oh, et d'ailleurs, toi, tu voyages avec quelle compagnie? Alors d'abord, elle disait: À quelle heure est ton vol? Puis elle a dit: Je crois à 10h30. Elle regarde ses amis: Je crois à 10h30 notre vol, oui, c'est ça, ouais, ok. 10h30, oh, ok, de quel aéroport vous partez? C'est un plus petit aéroport, un peu sur l'extérieur. Ah, ok. Ah ouais? C'est quelle compagnie aérienne? Et là, elle la regarde, elle fait: c'est mon avion à moi. Vous imaginez le choc que j'ai eu? J'étais: votre propre avion? Alors, elle n'est pas dit à moi, elle disait à une personne, et j'ai entendu, j'étais. Vous voyez, c'est ce genre de dimension de compréhension du monde. Dites la compréhension de la parole de Dieu. Embellis ma vie. Mais j'aimerais que vous compreniez que le centre de votre prospérité, le centre de votre santé, le centre de votre gloire consiste à gagner des âmes, consiste à amener Christ de partout. Vous savez que vous pouvez amener Christ de partout. Quelqu'un m'a écrit là l'autre fois. Jamais vu. Je ne sais même pas qui c'est. Elle m'a dit merci pour le témoignage que vous avez amené sur Rhapsody TV. Ça leur a permis de sauver des âmes. Donc j'ai sauvé des âmes sans même le savoir. Vous vous rendez compte? Dites je vis pour sauver des âmes. Dites ma vie est calibrée autour du sauvage d'âme. Du sauvetage d'âme. Pardon, pardon, pardon. Vous m'avez compris. Dites ma vie est calibrée autour de la parole. Dites je suis un succès. Dites toutes les finances nécessaires pour gagner des âmes m'ont été données. Alléluia. Dites, je suis plus que vainqueur. Donc, vous devez évangéliser, c'est une nécessité qui vous est imposée. Oh, alléluia. Dites cela, mais imposée. Dites, c'est un fardeau doux et léger. Alléluia. Vous voyez donc, cette nécessité nous a été imposée. Prenons encore Marc 16. Et d'ailleurs, nous sommes connus comme des gens de prière, n'est-ce pas? Sur la direction du Saint-Esprit, à partir de, excuse-moi, Marc 16, on va prendre 15 à 20. 15 à 20. Sous la direction du Saint-Esprit, les réunions d'études bibliques et de prière du lundi soir deviendront des réunions de prière uniquement. L'étude biblique, elle consistera à votre étude personnelle pour l'instant. Où vous reprendrez les messages, vous les écouterez, vous les travaillerez et vous grandirez dedans. Donc on va passer à 45 minutes de prière à la place de 1 heure d'étude biblique et de prière. Comme ça vous libère un peu du temps aussi. Amen. Il leur dit, donc c'est Jésus qui parle, allez dans tout le monde et prêchez l'évangile à toute la création. Juste une seconde, ça c'est déjà très intéressant. Il n'a pas dit prêchez l'évangile à toute personne. Vous savez que l'ensemble de la création peut entendre l'évangile et répondre. L'ensemble, votre voiture peut répondre à l'évangile. Votre argent répond à l'évangile. Votre santé répond à l'évangile. Dites tous mes biens répondent à l'évangile. Dites-le, tous mes biens répondent à l'évangile. Waouh, 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 waouh. Continuons juste, verset 16. Celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui n'aura pas cru sera condamné. Alors le baptême, ça ne parle pas du baptême d'eau, ça parle d'être baptisé dans le corps du Christ. Verset 17. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Dites, j'ai cru. Ces signes m'accompagnent. Regardez, en mon nom, ils chasseront les démons. Ok. Ensuite, ils parleront de nouvelles langues. Qui parle en langue ici? Levez la main si vous parlez en langue. Ok. Vous avez remarqué quelque chose? Le parler en langue vient comme deuxième signe. Qu'est-ce que c'est le premier signe? Le premier signe, c'est... Okay. Donc, il dit, écoutez bien, il dit, allez prêcher l'évangile partout, d'accord? Et il dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Ok. N'oubliez pas ça dans votre œuvre évangélique, parce que quand vous gagnez des âmes, c'est essentiellement dans la prière. Hein. Vous savez ça, hein? Dites, je prie. Ok, si on peut prendre 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. On l'a déjà vu, mais j'aimerais qu'on le revoie. Parce que le premier signe pour gagner des âmes, c'est chasser des démons. Dites, la nécessité m'est imposée. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur par lequel nous vivons dans une victoire constante, vous comprenez? Constante, constante. Regardez. Et si notre évangile est voilé, il est voilé en ceux qui périssent, en lesquels le Dieu de ce siècle, c'est donc le diable, a aveuglé les pensées des incrédules pour que la lumière de l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu, ne resplendît pas pour eux. Donc vous voyez que quand il dit « allez gagner des âmes », le premier signe, c'est quoi? Vous êtes concentrés? C'est quoi le premier signe? Chasser les démons. Et là, il nous explique que c'est le démon qui cause l'aveuglement des gens pour ne pas recevoir l'évangile. Pas étonnant qu'il ait dit « le premier signe, c'est de chasser des démons ». Vous voyez, vous devez prendre, pensez à quelqu'un que vous voulez amener à Christ, n'importe qui, pensez-y maintenant. Vous devez comprendre que si cette personne ne vient pas à Christ, c'est qu'il y a un démon qui aveugle la réflexion de cette personne. Et c'est pour ça que le premier signe, c'est pas le parler en langue, le premier signe c'est chasser les démons. Notez que ce n'est pas le premier don que le chrétien est censé expérimenter, hein. C'est le premier signe pour l'évangélisation. Vous voyez la différence? Un chrétien peut déjà parler en langue et ensuite... apprendre à chasser les démons. Mais pour gagner des âmes, la première chose à faire, c'est de chasser les démons. Amen. Vous vous rendez compte? Quelque chose d'intéressant. Vous vous rendez compte que vous êtes maintenant, tout de suite maintenant, vous êtes revêtu de l'entière autorité de Christ tout de suite. Vous chassez un démon, il s'en va tout de suite. Vous devez juste apprendre à utiliser cette autorité. Amen. Dites, je chasse des démons. Dites, je brise ce voile de l'incrédulité sur les gens que je veux amener à Christ. Donc j'aimerais que nous ayons cette pensée parce que nous allons prier après le culte pour notamment le 28 septembre. Mais aussi toutes les... Vous savez qu'on est censé amener des âmes à Christ constamment. Ça va tout le monde? Vous êtes là? Nous sommes censés gagner des âmes pour Christ. C'est censé être un roulement constant. Amen. Dites, je suis plus que vainqueur. Dites, je chasse des démons. Est-ce que vous vous rendez compte de l'autorité par laquelle vous avez été investi pour vivre dans cette victoire constante dans laquelle Dieu vous a appelé? Donc, ça veut dire que Christ vous a donné une autorité pour quelque chose. On peut juste revenir sur Marc 16, où on était avant. On va juste reprendre. Et c'est pour ça que vous vous êtes posé comme ça et vous commencez à prier pour les gens que vous voulez amener à Christ. On peut aller au verset 17. Et ce sont ici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues. Continuons. Ils prendront des serpents. Et quand ils auront bu quelque chose de mortel, cela ne les nuira point. Ils imposeront les mains aux malades ou aux infirmes et ceux-ci se porteront bien. Vous êtes censés imposer les mains aux malades. Nous sommes censés imposer les mains aux malades. Nous sommes censés assujettir la maladie dans la vie des gens pour les amener à Christ. Et on est en train de travailler pour le 28 septembre d'avoir quelqu'un qui vient témoigner. Je vous dirai des nouvelles, mais qui viendra témoigner de sa guérison. On est en train de regarder si elle peut venir. Elle était guérie du cancer, elle était en cancer phase terminale. Elle était mourante, finie. J'ai la vidéo, la photo, pardon. Et maintenant, gloire à Dieu, maintenant, elle est guérie, amen. Dites, je vis pour Christ. Dites, ma vie est destinée à la victoire. Alléluia. Donc, nous allons faire quelques réajustements. D'accord ? Donc, prenez note, s'il vous plaît, de choses pratiques pour l'Église. Alléluia. Premièrement, si je vous dis ça, ne le prenez pas personnellement. C'est une instruction du Saint-Esprit, d'accord ? Quand on fait la prière en groupe, ne soyez pas couchés sur votre lit. D'accord ? Vous pouvez vous mettre assis, vous pouvez vous mettre debout, mais ne soyez pas couché. Quand la rhapsodie est lue pendant la prière, parce que vous savez, pour ceux qui savent, on lit la rhapsodie pendant la prière le matin, ce n'est pas une raison d'aller faire autre chose. Hein. Vous écoutez la rhapsodie, vous prenez la rhapsodie, vous la lisez en même temps. Amen. Ce n'est pas une pause. Amen. Gloire à Dieu. Et de votre côté aussi, participation à la prière du matin, minimum, une fois par semaine. Il y a bien sûr des cas où vous êtes loin ou comme ça, ça c'est pas un souci. Hein. Par exemple, moi j'étais là, loin, toute la semaine presque, j'ai participé qu'à deux séances de prière. Oui, donc, il y a des fois où c'est compréhensible, amen. Mais parce que Dieu veut vous énergiser pour la victoire. Vous savez, on a compris que Dieu ne fait pas les choses magiquement sans notre consentement, amen. Et troisièmement, ça c'est par rapport au 28 septembre, j'aimerais que vous priez tous entre 10 et 15 minutes par jour pour ce 28 septembre. Amen. Parce que Dieu ne nous appelle pas à une victoire pareille dans le vide. Et les gens vont entendre l'évangile, ils vont entendre ce que Christ a fait pour eux, ils vont comprendre ce que Christ a fait pour eux. Amen. Dites, je suis une victoire ambulante. J'aime vraiment beaucoup comment vous êtes habillés, les gars. C'est excellent. Amen. Dites, je suis plus que vainqueur. Ok. Alors, nous allons vivre dans ce que Dieu a pour nous, dans cette église. Amen. Nous allons être connus pour être une église qui prie, une église qui est dans la parole et une église qui est attachée au corps de Christ, à l'église. Gloire à Dieu. Vous êtes prêts pour ça? Alléluia. J'aimerais qu'on soit concentrés dans les Écritures. Amen. Vous avez lu la rhapsodie du jour?